Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal. Voici tout de suite le sommaire. Viviane Van de Perre poursuit son séjour en RDC. L'adjointe du secrétaire général de l'ONU chargée de la protection civile est arrivée hier à Bunia sur place. Elle a rencontré le gouverneur de l'Ituri qui lui a présenté la situation sécuritaire et humanitaire de la province. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Les militaires des FARDC seront déployés à travers Kinshasa dès lundi 29 septembre. C'est pour appuyer la police dans la régulation du trafic routier. Cette instruction du chef de l'État est rendue effective par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, associé aux responsables de la PNC et l'inspection générale de la police. Et puis, l'invité de ce midi, Frédéric Amani, analyste politique et chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Il décortique les grandes lignes du discours du président Tshisekedi mardi à la tribune de l'ONU à New York. Madame, Messieurs, bonjour. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies chargée de la protection civile est arrivée hier mercredi à Bunia. À son arrivée au chef-lieu de l'Ituri, Viviane Van de Perre a rencontré le gouverneur Johnny Lubuyankashama qui lui a présenté la situation sécuritaire et humanitaire de la province. Pour le gouverneur, la fréquence des visites des hauts responsables onusiens traduit la tension particulière que la communauté internationale accorde à l'Ituri. On écoute le général Johnny Lubuyankashama.
Je crois que la communauté internationale, les Nations Unies comprennent vraiment ce que l'Ituri est en train de vivre. Et je suis sûr qu'ils ont placé la province de l'Ituri comme une priorité. Et c'est ainsi que tout le temps, vous voyez qu'ils arrivent ici. Le secrétaire général adjoint était ici, Bruno le Marquis était ici et Madame est là. Nous avons parlé non seulement des opérations, mais nous avons parlé aussi de l'approche non militaire. Hein? Donc, et toutes ces réponses-là que nous devons donner, il faudrait un suivi jusque dans les détails. Et donc, nous avons le plan international où nous avions Monsieur Lacroix qui est arrivé. Mais ici, sur place, nous sommes avec Madame. Donc, nous devons faire un suivi des opérations et aller sur terrain.
L'agenda de la chef adjointe de la MONUSCO prévoit également des rencontres avec les autorités coutumières, les leaders féminins, ainsi que des visites de terrain. Pendant ce temps, au Nord Kivu, l'FCM23 accroît ses effectifs et ses moyens logistiques sur l'axe routier Kipese-Lubero-Centre dans le territoire de Lubero, un axe stratégique qui mène vers plusieurs agglomérations encore sous contrôle des FARDC. La société civile et des sources locales redoutent une reprise des hostilités avec les FARDC alors que les pourparlers de Doha sous médiation qatari stagnent. Des détails avec Martial Papi Mukeba.
Le renforcement de l'AFC M23 en hommes et en matériel est observé depuis une semaine à Kipese, Katondi, Munyakondomi et Vulera, occupés par les rebelles depuis près de 8 mois, des localités situées à seulement 10 à 20 km de Lubero Centre, chef-lieu du territoire. D'autres renforts sont signalés dans la commune rurale de Kirumba, sur un axe menant vers les Graben, une zone lacustre à la limite du territoire de Beni. Des sources locales craignent des offensives de l'AFC M23 contre plusieurs agglomérations stratégiques de Lubero, ouvrant la voie vers la ville commerciale de Butembo. Des sources sécuritaires confirment également ces renforcements dans les sites de Lubero. Depuis février 2025, l'armée ougandaise UPDF s'est déployée aux côtés des FARDC dans les sites des Lubero pour contenir l'avancée rebelle. Leur position avancée commune se situe actuellement à Kasuo, à une quarantaine de kilomètres de Lubero Centre. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. Plus de 100 familles, soit au moins 314 réfugiés rwandais, sont à nouveau rapatriés dans leur pays. Ils ont quitté la RDC hier mercredi pour le Rwanda, traversant en sécurité et dignité la frontière de la Grande Barrière, surnommée la Corniche. Ce retour volontaire est facilité par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ACR, dans le cadre d'un processus continu initié depuis le début de l'année. Le point avec Alain Rongmouchinge.
Il s'agit ici du 13e convoi de rapatriement des réfugiés rwandais organisé par le HCR en collaboration avec les autorités congolaises et rwandaises depuis le début de cette année 2025, fait remarquer le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au total, 101 familles, soit environ 314 réfugiés rwandais, ont été rapatriés dans leur pays dans ce convoi. Plusieurs parmi eux, en l'occurrence les plus jeunes, sont nés sur le territoire de la République démocratique du Congo, des parents rwandais, arrivés en 1994, indiquent d'autres sources concordantes. Cette opération porte à 1472 familles, soit un cumul de 4813 individus déjà rapatriés au Rwanda à partir de Goma au Nord Kivu depuis le début de cette année 2025, précise le HCR. L'agence onusienne ajoute que ce rapatriement est librement consenti et accompagné des garanties de sécurité.
Par ailleurs, réconforter les troupes des FARDC et de la police nationale congolaise déployées sur le terrain à Mboko et à Fizi dans le sud Kivu, tel était entre autres l'objectif de la mission effectuée mardi dernier dans cette partie du pays par le commandant des opérations Sokola 2 Sud Kivu, une visite qui intervient dans un contexte sécuritaire volatile. Ronéline Tibonera nous en dit plus.
Soucieux de faire régner l'ordre et la discipline parmi les soldats cantonnés dans la zone, le général de brigade Mwenhu Lumbu Evariste a tenu à s'assurer que toutes les unités exécutent les missions assignées avec rigueur, selon des sources de l'armée. Pour cet officier supérieur, la discipline militaire, la loyauté et le patriotisme constituent les piliers de son engagement. Nos sources précisent que le même jour, le FARDC ont dû jouer une attaque des rebelles de l'FC-123 et de leurs alliés MEDRP, Twahinero, FNL, Retabara et Nzaba Pemba au niveau du village Bilalombili. Ce village est situé dans le territoire de Mwenga, secteur du Tomboué, à environ une heure de marche de la localité de Mikenge. Selon l'armée, ces rebelles avaient pris pour cible l'opposition de la 13e brigade des réactions rapides de FARDC avant d'être repoussés.
Je vous le disais en titre, lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Les militaires des FARDC seront déployés dans les rues de la capitale dès le lundi 29 septembre pour appuyer les éléments de la police afin de bien assurer la régulation du trafic routier. Décision annoncée hier mercredi à l'issue d'une réunion entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, les responsables de la police nationale congolaise, notamment la police de circulation routière PCR et l'inspection générale de la police. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des instructions du président de la République issues de la dernière réunion du Conseil des ministres relative à la problématique des embouteillages dans la capitale. Des précisions avec Grace Amzati.
Outre les déploiements de l'armée sur les routes, le gouvernement exige le port obligatoire du casque par les conducteurs des taxis-motos et leurs passagers, ainsi que la limitation de leur champ de circulation par l'interdiction formelle d'accès au centre-ville. Ainsi, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, demande à la police de passer à l'exécution de ces mesures. Le commissaire provincial de la police à Kinshasa, Israël Kantoubakoulou, explique.
Nous venons de voir les instructions fermes de sa part pour que puissent mettre en pratique et que nous puissions juguler, si pas à 100%, mais à des pourcentages considérables des embouteillages de la ville de Kinshasa. Il y a eu des instructions que nous allons mettre en application dès ce lundi par les effectifs de la police de circulation routière, appuyés par les éléments des 14 militaires du bataillon PEM pour nous accompagner à cette tâche-là.
Jacquemain Chabani instruit également l'inspection générale de la police de veiller à une lutte efficace contre les comportements inciviques de certains agents de l'ordre. Il est demandé aussi aux conducteurs de respecter strictement le code de la route. Le gouvernement annonce par ailleurs une nouvelle dotation en moyens logistiques et matériels au profit de la police en vue d'améliorer les conditions de travail des agents et accroître leur efficacité sur le terrain.
Du côté du Kasaï central, les autorités provinciales lancent un SOS pour la construction du pont Lueta, un ouvrage qui relie la localité de Samwanda à la cité de Luisa. L'ancien pont flottant devenu vétuste a été fermé à la traversée par l'Office des routes provinciales, mais le problème reste entier. L'Office des routes du Kasaï central affirme ne pas disposer des moyens nécessaires pour construire un nouveau pont métallique. Cependant, le directeur de cabinet du gouverneur du Kasaï central, Jori Ngando, appelle la direction générale de l'Office des routes à intervenir d'urgence. La construction de ce pont permettrait de désenclaver la région et faciliter le transport des passagers et des marchandises entre Kalambambouji, Moneditu et Luisa, dit-il. Jori Ngandou est au micro de Richard Junior Kamunga.
Là, je parle plus précisément du pont l'État qui va nous créer des problèmes. Le pont est déjà cassé et je demande aux autorités de l'office de route au niveau national, de Foner et le ministre des ITPR de s'impliquer pour que la solution soit trouvée en urgence. Il n'est point besoin ici de démontrer l'importance de cette route que nous appelons la route du salut. Mais lorsque le pont est cassé, il y a la population riveraine qui commence à transporter les choses à même les épaules pour le faire traverser de l'autre côté de la rive. Donc là, ça pose un peu problème et nous demandons que l'office des routes prenne la chose à main. La direction provinciale de l'office des routes manque de tout. Nous n'avons pas d'équipement. Nous avons fait des devis. On a déposé sur la table du directeur général, mais aussi sur la table des gérophonaires pour qu'on puisse ne fût-ce qu'envoyer l'argent qui a été demandé pour la réparation des équipements et aussi terminer le pont qui a été déjà entamé. Mais là, nous sommes abandonnés à notre triste sort.
L'actualité, c'est aussi le retour hier à Mbujimayi du gouverneur du Kasaï oriental. Après un séjour à Kinshasa de près de 4 mois, Jean-Paul Mbwebwe Kapo a été autorisé par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité à reprendre ses fonctions de gouverneur de province. Plusieurs personnalités ainsi que les membres de son parti politique UDPS ont fait le déplacement vers l'aéroport pour l'accueillir. Rappelons que le gouverneur Jean-Paul Mbwebwe a été mis en accusation par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental qu'il accusait de détournement de 3 millions de dollars destinés au projet à impact visible au chef-lieu de Mbujimayi du Kasaï oriental. Plutôt, la Cour constitutionnelle a rejeté cette décision jugée non conforme à la Constitution. La Fédération nationale des enseignants du Congo, Union nationale des travailleurs du Congo, FENECO UNTC, a distribué mardi des kits scolaires à des enfants qui autrefois étaient employés comme travailleurs dans différents domaines. Ces derniers ont été inscrits dans les écoles dans le cadre de la gratuité de l'enseignement de base. C'est dans le cadre du projet de création d'une zone libre de tout travail des enfants dans la cité de Kiliba, au sud Kivu. Projet qui vise à éradiquer le travail des enfants et à offrir une voie vers l'éducation dans des zones meurtries par les violences et l'instabilité sécuritaire. Sarah Soumbela nous en dit plus.
Selon Paul Fanaka Alfayo, président provincial de la FENECO UNTC, le projet de création d'une zone libre de tout travail des enfants dans la cité de Kiliba, au sud Kivu, a permis de récupérer 356 élèves, dont 200 qui ont reçu des kits comprenant manuels, cahiers, stylos et lattes, dans 9 écoles des Kawizi Kaliba Centre, Kaliba Onde et Runingo, dans les territoires d'Ouvira. Cette aide intervient alors que de nombreux élèves de ces entités souffrent d'un manque criant de ressources pédagogiques, notamment de manuels, cahiers et uniformes. Pour lui, ces gestes permettra aux enfants d'étudier dans des bonnes conditions et permet aux familles déséquilibrées par la guerre de retrouver un espoir. Il faut noter que l'enquête menée en décembre 2024 a révélé 1620 enfants travailleurs dans la cité de Kiliba, dans des activités champêtres, élevage, garde de bébés, commerce en bilan, briqueterie et autres.
Autre nouvelle, la province du Maniema va bientôt disposer d'un bureau de l'ordre des ingénieurs agronomes. Sa mission, bien structurer ce secteur afin de permettre aux ingénieurs agronomes d'accomplir correctement leur mission sur terrain. C'est ce qu'indique le secrétaire rapporteur national de cette structure qui séjourne à Kindu. Selon Dieudonné Boutoumbi Kabongo, l'installation de ce bureau sera précédée par une assemblée générale extraordinaire et élective des ingénieurs agronomes. Nous y reviendrons.
Actualité internationale.
Le verdict est tombé ce jeudi 25 septembre pour Nicolas Sarkozy, l'ancien président français jugé coupable d'association des malfaiteurs. C'est dans l'affaire des soupçons de financement par Muammar Kadhafi, ancien président libyen, de la campagne présidentielle victorieuse de 2007 en faveur de Sarkozy. Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé l'ancien président français des autres faits dont il était accusé, notamment de corruption. La commission électorale ougandaise autorise le président sortant Yoweri Museveni à se présenter aux élections prévues en janvier 2026. Son rival Bobi Wine a également été autorisé. Chef du parti au pouvoir, le mouvement de résistance nationale, Yoweri Museveni se présentera à l'élection présidentielle malgré son règne de près de 40 ans en tant que chef d'État de l'Ouganda.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Frédéric Amani, analyste politique et chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Il décortique les grandes lignes du discours du chef de l'État congolais mardi à la tribune des Nations Unies à New York. Frédéric Amani s'entretient avec Alain Rumushinge.
Frédéric Amani, bonjour. Vous avez suivi le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Quelle analyse en faites-vous de manière générale?
Bonjour. Permettez, avant de répondre à votre première question, je voudrais ici préciser une chose. À la tribune des Nations Unies, chaque État fait son discours par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ce qu'il peut apporter ou ce qu'il a apporté. Et je pense que le discours du président Félix a porté la voix congolaise dans les instances internationales. Et de mon point de vue, son discours a été ponctué par des temps forts. Un temps d'espoir et un temps de déception. Espoir en évoquant les 8 décennies de la création de l'ONU. Espoir en évoquant les perspectives de la réforme de cette organisation pour qu'elle soit, n'est-ce pas, à la hauteur des défis auxquels l'humanité est confrontée. Mais déception dans la mesure où le monde fait face aux multiples défis que l'organisation continentale peine à apporter des solutions idoines. Mais aussi déception par rapport à l'instabilité, à la guerre que vit la région des Grands Lacs et particulièrement l'est de la RDC.
Le président Tshisekedi a appelé la communauté internationale à reconnaître le génocide des Congolais pour des fins économiques génocide. En ce moment où le monde vit des crises multiples, notamment à Gaza, en Ukraine, en Somalie, pensez-vous que la voix de la RDC sera entendue?
La mobilisation de la communauté internationale pour que la voix congolaise soit entendue, malgré qu'il y a plusieurs crises au travers le monde, cela dépendra de deux manières. D'abord, des efforts que la RDC va déployer, et au niveau interne, mais aussi au niveau externe. Ça, c'est de un, parce qu'on ne le dit jamais assez. Les partenaires ou la communauté internationale suivent une dynamique, la dynamique interne et la dynamique externe. Mais de deux, la voix congolaise pourra être entendue dans les instances internationales par rapport à la reconnaissance des génocides, cela dépendra du choix stratégique de ses alliés. Lorsque vous choisissez des alliés stratégiques qui peuvent vous appuyer et vous accompagner dans les efforts que vous déployez et au niveau interne et au niveau externe, à ce moment-là, ces alliés peuvent devenir, si vous voulez bien, des relais de votre voix dans d'autres instances. Dans les cas contraires, ça risque d'être une parole d'évangile qui, quelques temps après, risque d'être mise dans les tiroirs et ce sera malheureusement de la peine perdue.
Le président de la République est revenu sur les négociations de Doha et de Washington. Quel est votre avis par rapport à l'avancée de ces négociations pendant que sur terrain, les combats ne font que s'amplifier?
C'est vrai, nous saluons les efforts des négociations de Doha et de Washington, mais il faut préciser une chose, c'est que la paix définitive ou la paix positive, s'il faut le dire, ne viendra pas ni de Washington ni de Doha, moins encore de Nairobi ou de Luanda. La paix définitive face à la crise à l'Est viendra de la capacité des Congolais à se mettre autour d'une table sans exclure aucun acteur majeur dans ces crises pour parler des questions qui fâchent, des questions qui divisent. Ça fait mal d'entendre ça, mais je crois que c'est ça la réalité. Dans les cas contraires, on va continuer à tourner à rond et que Washington, Doha, Nairobi, Luanda, Sun City et ailleurs n'apporteront pas de paix définitive aussi longtemps que les Congolais eux-mêmes ne prendront pas conscience du danger de la guerre, du danger de l'absence de la paix et de se mettre autour d'une table pour parler des questions qui fâchent et sans exclure aucun acteur et en privilégiant l'intérêt général.
Pour terminer, le président Tshisekedi a évoqué la situation climatique catastrophique que traverse le monde en ce moment en présentant la RDC comme pays solution. Pensez-vous que la diplomatie environnementale est efficace et porte ses fruits?
C'est vrai, nous saluons les efforts diplomatiques en matière environnementale, mais je crois qu'il y a encore un chemin à parcourir pour que la diplomatie environnementale ou climatique de la RDC soit efficace et apporte des fruits escomptés. Je crois que cela dépend, n'est-ce pas, d'une mobilisation au niveau interne et au niveau des ministères stratégiques de développement durable, le ministère de l'agriculture, le ministère de l'environnement et consorts, eh bien, cela peut apporter des efforts significatifs. On ne peut pas être une solution pour d'autres sans en être pour soi.
Frédéric Amani, je vous remercie.
Voilà, notre invité répondait aux questions de Alain Roumouchinch. Par ici, prend fin ce journal, justement supervisé par Alain Roumouchinch, coordination de Élisée Tikota Chivueta, à la mise en onde Jean-Claude Nsiala, Moana Makengo Swalou, et devant ce micro, Belinda Bosuma. Merci d'avoir été des nôtres.